Les paractualités.
Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités du 18 avril 2018. Hélène Denis au micro et en manchette en ce mardi. Projet clé, réunir les conditions gagnantes pour un meilleur avenir. Mercredi plutôt, n'est-ce pas? Des personnes handicapées pourraient ne plus avoir accès à une piscine adaptée. Aussi, la création du langage des signes dans la nation Oneida. En entrevue, je reçois Pierre Mainville, athlète d'escrime qui participera au défi sportif Altergo qui prend son envol le 23 avril, et aussi le comédien Sébastien René, comédien, interprète dans la pièce « Le bizarre incident du chien pendant la nuit ». Il incarne Christopher Boone, une personne autiste, de façon magistrale. Projet clé, réunir les conditions gagnantes pour un meilleur avenir, c'est dans le courrier du Sud.ca. À 18 ans, les jeunes sous la protection de la jeunesse perdent tout soutien gouvernemental. Ceux qui parviennent à terminer un parcours scolaire dans ces circonstances sont les exceptions. Ayant pour mission d'amasser des fonds pour venir en aide aux jeunes et combler les services qui ne sont pas offerts par le gouvernement, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie avait l'impression d'abandonner à son tour, à l'âge de la majorité, ces jeunes plus à risque de renouer aux études postsecondaires. De renoncer, dis-je bien, aux études postsecondaires. D'où la création du projet clé par le CI3S Montérégie Est, anciennement le Centre jeunesse de la Montérégie, et la Fondation. Le programme offre une bourse annuelle de 5 000 et autres extras, en plus du soutien régulier d'un mentor. Valoriser la scolarisation est le meilleur moyen de mettre toutes les chances de leur côté. On les maintient dans les écoles et activités de quartier. On veut les intégrer à la société, expose la chef d'unité des services de réadaptation du CI3SME et membre du comité de coordination du projet clé, Sophie Dubuc. Certains développaient leur potentiel pour aller au cégep, mais on vivait une frustration. Parce qu'ils n'avaient pas de sous, ils lâchaient. C'est à partir de cette préoccupation commune qu'on s'est dit « il faut faire quelque chose ». Le soutien financier ne vise pas à empiéter sur ce que doit payer le gouvernement, mais bien pallier un manque. En plus de la bourse annuelle, une somme est mise de côté pour le cadeau de graduation, un montant qui servira à rembourser les prêts. Pour l'avenir du CHU Sainte-Justine, source coalition contre le regroupement forcé du CHU Sainte-Justine et du CHUM. La coalition pour l'avenir du CHU Sainte-Justine et contre le regroupement forcé avec le CHUM a officiellement accueilli dans ses rangs aujourd'hui trois importantes organisations québécoises, à savoir la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et Médecins québécois pour le régime public. Ce nouvel élargissement de la coalition témoigne de l'ampleur du mouvement et de la ferme volonté d'acteurs de tous les milieux de combattre jusqu'au bout l'affaiblissement du CHU Sainte-Justine. Avec l'annonce d'aujourd'hui, les trois plus grandes centrales syndicales du Québec sont réunies au sein du mouvement. La Confédération des syndicats nationaux, qui représente tous les employés, infirmières, infirmiers, auxiliaires et professionnels syndiqués du CHU Sainte-Justine, avait annoncé son appui le 12 octobre 2017. Il était incontournable pour la CSQ de se joindre à la coalition. En effet, devant l'ampleur et la gravité des enjeux, il s'avère nécessaire d'être solidaire pour préserver la pleine autonomie et l'indépendance de cette institution qu'est Sainte-Justine. C'est un modèle historique de mobilisation citoyenne et professionnelle pour la santé des enfants du Québec. Nous déplorons l'entêtement du ministre de la Santé dans ce dossier. Soutient Mme Louise Chabot, présidente de la CSQ, donc la Centrale des syndicats du Québec. « La 35e édition du défi sportif Altergo s'en vient à grands pas. Ça sera lancé du 23 au 29 avril 2018. Encore une fois, cet événement unique au monde s'apprête à accueillir plus de 6000 athlètes de la relève et de l'élite, des athlètes de toute déficience de partout au Québec et en provenance de plus de 15 pays. Et Pierre Mainville fait partie des 6000 athlètes, athlète d'escrime qui était à Rio, qui fera partie du défi sportif Altergo, donc qui prend son envol dès lundi prochain. Bonjour Pierre Mainville.
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Oui.
Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi le sport, l'escrime?
Ah, ben l'escrime, ça remonte à longtemps. Moi, j'ai toujours été très sportif. Donc, j'ai essayé, quand j'ai eu mon handicap, là, ça fait déjà 16 ans, je cherchais un sport parce que moi, comme je vous dis, je faisais tous les sports. Puis, j'ai toujours été meilleur dans les sports individuels. Puis, en essayant tous les sports qui étaient adaptés à ce moment-là, j'ai essayé l'escrime, puis en touchant ce sport-là, je suis tombé en amour.
Ça a cliqué, il y a eu un coup de foudre.
Exactement,
Qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 16 ans?
C'est pas à l'âge de 16 ans, c'est il y a 16 ans. Donc, j'avais 27 ans. J'ai été victime d'un tireur qui était jaloux. Là. C'est comme ça s'est passé à Laval là, en 2001. Ouais, c'est ça. Puis nous, on était dans l'auto, on s'en allait à la Saint-Jean-Baptiste. Puis il a fait feu sur tout le monde dans l'auto, dont la dame, elle est décédée. Puis moi, j'ai reçu seulement qu'une balle là, sur les 30 balles qu'il a tirées. Puis ça m'a laissé paraplégique.
Je me souviens de cette histoire sordide. Et ça vous a demandé, j'imagine, un temps de réadaptation, puis aussi une philosophie de vie où vous n'avez pas le choix d'accepter votre nouvelle condition.
Bien, ça s'est quand même bien passé parce que moi, à l'âge de 18 ans, mon meilleur ami est devenu en fauteuil roulant avec un accident de trois roues. Donc, j'étais pas dans l'inconnu, là, puis il m'a tellement montré qu'il y avait une vie après une paraplégie. Donc, admettons, quelques années après, là, une dizaine d'années après, déjà, je jouais au hockey sur luge. Je connaissais déjà les sports adaptés. Quand ça m'est arrivé, moi, j'ai tellement eu peur de mourir dans cet accident-là que d'avoir encore mes bras et de pouvoir continuer à vivre une belle vie, je savais que je pouvais le faire. Donc, j'étais quand même bien. Je n'étais pas comme dans le néant, comme bien des gens là, quand ça leur arrive.
Oui. Vraiment, tant mieux. Vous êtes un bel exemple de résilience. Que représente pour vous le défi sportif Altergo?
Bien, le défi sportif, vous l'avez mentionné, là, c'est vraiment un gros organisme.
Oui.
Moi, c'est les premières compétitions que j'ai faites après être tombé en amour avec l'escrime. Déjà, je jouais au basketball en fauteuil roulant, puis c'est là que j'ai commencé à connaître le défi sportif. Donc, mes premières compétitions, j'ai faites au basket. Puis après ça, il y a environ 10 ans, là, 10-11 ans, j'ai commencé ma première compétition en escrime. Puis ça a continué. Donc pour moi, ça vaut beaucoup parce que on a la chance d'aller faire une compétition qui coûte pas trop cher, qui est chez nous finalement, là, quand c'est nos premières compétitions, puis de voir où on est rendu avec les gens à l'international. Là. Pour moi, en tout cas, là, je sais qu'il y a des jeunes que eux, c'est leur première compétition, puis ils viennent se dépasser à cette compétition-là. Ils viennent montrer à leurs parents ce qu'ils savent faire, puis moi, je trouve ça génial là, de voir les jeunes. Ça donne toujours une leçon de vie, même si nous, on est pris avec un handicap, mais de regarder les jeunes qui se dépassent, c'est génial.
Oui. Il y a quelque chose de très stimulant.
Ah, oui. Je pense que tout le monde devrait aller voir ça. Là. Moi, c'est très émotif pour moi. Puis, c'est là que j'ai rencontré ma conjointe aussi.
Donc, ah oui?
Pour moi, ça représente beaucoup. Puis, mes enfants, j'ai deux enfants aujourd'hui. Là. Puis, ma fille est bénévole aussi pour le défi sportif.
Wow.
Donc, pour moi, c'est une affaire familiale. Puis, c'est là que je rencontre beaucoup, beaucoup d'amis aussi, là, que ce soit dans n'importe quel sport, mais que ce soit aussi les bénévoles ou bien des gens que ça fait longtemps que je connais. Donc, pour moi, c'est pratiquement une famille, là, le défi sportif.
Une histoire sportive, romantique, familiale, c'est vraiment la totale. C'est très beau, très inspirant.
Exactement.
Et Pierre Mainville, qu'est-ce que vous cherchez cette année en participant au défi sportif Altergo?
Moi, je suis Pratiquement à la retraite, là, mais j'ai fait une...
Vous êtes jeune, un jeune retraité.
Oui, c'est ça. Mais en sport, carrières sont un petit peu plus courtes, mais je veux dire, en fauteuil roulant, on a la chance d'avoir une carrière un peu plus longue quand même. Donc, là, je suis rendu à... Je vais avoir 45 ans cet été. Mm-hmm. Puis, j'essaie d'arrêter l'escrime, mais on a passé comme une entente avec ma fédération d'escrime que je continue à faire des compétitions pour essayer d'aider la relève. Parce que pour une fois, l'escrime, c'est pas nécessairement beaucoup populaire, surtout au Québec, au Canada, je veux dire. Mais tranquillement, là, ça perce. Puis là, on a de plus en plus de jeunes qui essayent l'escrime. Puis on en a même en Saskatchewan. Puis avant, on était seulement deux pendant tout le temps. Puis là, on est rendu six à faire de l'escrime. Donc, le but, là, vraiment, là, de
votre participation?
Ben, c'est la participation, mais c'est d'aider ces jeunes-là, d'aider la relève en escrime. Donc,
qu'est-ce que vous diriez à un athlète qui, justement, hésite entre tel sport ou tel autre? Pourquoi il choisirait l'escrime? Qu'est-ce qu'il y a de si plaisant à pratiquer ce sport?
Ben, je pense pas que c'est nécessairement juste l'escrime. Moi, je pense que c'est plus de faire un sport. Faut faire un sport dans la vie. Puis, tu sais, le sport, c'est la santé. Donc, il faut vraiment que, surtout les gens qui ont un handicap, ben qui fasse un sport pour justement aider à la santé. Moi, ça m'aide grandement, que ce soit côté psychologique ou même physique, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est important de faire un sport. Puis ce que je peux dire à un jeune avec un handicap, oui, c'est de foncer, de pas se décourager. Souvent, on a dans les écoles, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je le vis présentement à Saint-Jérôme, là, il y a quelqu'un qui a des difficultés justement à pouvoir faire un sport à l'école parce que les gymnases sont pas nécessairement accessibles pour lui. Puis il y en a un, mais là, c'est difficile avec l'horaire. Donc, j'essaie d'aider par rapport à ça, mais tu sais, c'est de pas se décourager, puis tu sais, faut vraiment briser ces barrières-là, puis d'aller de l'avant. Puis quand on aime faire un sport, puis ben, peu importe ce qui va arriver, on est capable de trouver des solutions, là, dans le fond.
Vous parliez tantôt de future retraite probable. Moi, je vous verrais bien vous impliquer encore davantage, ou en tout cas, vous continuez de vous impliquer au défi sportif Altergo en tant que conseiller, parce que vous avez des bons mots qui sont vraiment inspirants.
Ben merci beaucoup. Ben c'est ce que je vais faire.
Alors, ben en attendant, je vous souhaite une belle compétition. Ça va être quand pour vous?
Ben moi, ça se passe les jeudis, vendredis, samedi et dimanche. Donc, c'est les quatre journées, là, pas mal la fin de semaine là, qu'il va y avoir les compétitions en escrime. Puis,
au centre Claude Robillard?
Oui, exactement, au centre Claude Robillard.
Bon, ben on sera au rendez-vous. Merci, Pierre Mainville. Puis, le mot de Cambronne dans le cadre de cette 35e édition du défi sportif Altergo.
Ben merci beaucoup.
Merci. Bloc régional maintenant, des personnes handicapées pourraient ne plus avoir accès à une piscine adaptée. Des centaines de baigneurs dont des personnes handicapées pourraient ne plus avoir accès dès juillet à une piscine adaptée intérieure appartenant au CI3S de la Naudière parce qu'il a mis fin au bail du locataire. L'annonce a créé une commotion chez certains baigneurs et organismes utilisant la piscine et une pétition a été lancée pour que le centre de santé revienne sur sa décision. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'autres alternatives. Il ne faut pas qu'elle ferme, elle est vieillotte, mais elle est fonctionnelle, affirme Marcel Marcoux, dont l'entreprise Natation en Forme offre des cours depuis 1989 à cette piscine de l'ancienne orphelinat Saint-Joseph, située sur la rue Lavaltrie Sud. Actuellement, quelques 1600 baigneurs faisant affaire avec Natation en Forme utilisent la piscine. Quatre organismes transigent aussi avec Natation en Forme pour y accéder, dont l'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles de Joliette, la Société de l'autisme de la Naudière ainsi que deux organismes venant en aide aux diabétiques et aux personnes atteintes de fibromyalgie. Or, ceux-ci pourraient ne plus avoir accès à la piscine adaptée dans quelques semaines. Le 26 mars dernier, Marcel Marcoux apprenait que son bail ne serait pas renouvelé le 1er juillet. 11 personnes perdront leur emploi lorsque le bail viendra à échéance. Une rencontre doit avoir lieu entre Natation en Forme et le Centre de santé le 19 avril afin de discuter de la situation. Thank you. La maison Maguire de Carleton-sur-Mer se donne un plan de redressement financier et de nouvelles orientations d'intervention. L'organisme offre du répit aux parents d'enfants handicapés. La maison qui couvre l'ensemble de la Gaspésie devait résorber un déficit anticipé de 70 000 $ sur un budget de 380 000 $. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, CI3S, finance la moitié de cette somme. Les dirigeants ont choisi de modifier les horaires et de réduire les activités à 4 jours par semaine, en plus d'offrir des répits de 48 heures. L'organisme se donne aussi une nouvelle approche d'intervention avec l'embauche d'éducateurs spécialisés, tout en augmentant le ratio de bénéficiaires par intervenante. La maison Maguire compte jusqu'à une quinzaine d'employés. La direction espère augmenter l'achalandage parce que le centre est sous-utilisé, selon la présidente Dorothée Leblanc. On a essayé depuis quelques mois de faire un changement de culture et ce n'est pas toujours évident, dit-elle. Il y a des dommages collatéraux. Des employés sont partis. On respecte leur choix, mais en plus d'un milieu de soins, on souhaite que ça devienne un milieu de vie. Madame Leblanc espère aller plus loin dans les interventions auprès des personnes qui fréquentent la maison. Et là-dessus, je me rends vers Sébastien René, comédien, interprète du rôle de Christopher Boone, une personne autiste, dans la pièce de théâtre présentée chez Jean Duceppe, Le bizarre incident du chien pendant la nuit, qui a remporté des Laurence Olivier, des Tony Awards, et c'est une pièce mise en scène par Hugo Bélanger avec toute une distribution. Le rôle principal est accordé à Sébastien René et qui nous donne une performance magistrale, époustouflante. Bonjour Sébastien René.
Bonjour.
Vous avez survécu à la première d'hier soir?
Oui.
J'étais dans la salle et j'ai vu qu'il y avait une ovation vraiment monstre. J'y participais d'ailleurs.
Oh, parfait.
Beaucoup d'applaudissements.
Oui, ça a été une belle réception. Hein?
Oui, vous aviez l'air ému.
Oui, ben vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout.
Non, pas du tout.
Ben, en fait, tu sais, quand je fais le spectacle, puisque on dirait que je suis vraiment dans le personnage, même
ça paraissait,
salut,
oui.
je réalisais pas au salut. Mes amis, après, me le disaient, est-ce que tu as réalisé comment les gens étaient debout, ça criait? Non.
Alors,
je ne suis pas rendu compte.
Ça va décanter, puis à un moment donné, tout ça va remonter, mais c'est bien quand même parce que c'est vrai que vous êtes complètement investi par votre rôle, vous décrochez pas un instant. D'abord, de quoi parle cette pièce, Le bizarre incident du chien pendant la nuit?
En fait, c'est l'histoire de Christopher qu'on suit tout au long de la pièce. Christopher, la pièce commence et Christopher découvre que le chien de Madame Shears, Wellington, est mort avec une fourche plantée dans son corps. Et il décide d'essayer de trouver qui a tué le chien parce que les gens pensent que c'est lui qui l'a tué parce qu'il était sur les lieux du crime lorsqu'il était le seul, en fait, lorsque les gens sont arrivés. Donc, il se dit, il n'y en a pas question, c'est pas moi qui l'a tué, je vais essayer de trouver qui l'a tué, je vais faire une enquête. Et suite à ses recherches, il fait des découvertes assez extraordinaires qui font en sorte que la pièce prend une tournure incroyable.
Oui, alors c'est une longue pièce, 2h25 incluant l'entracte, mais on suit ça vraiment comme une espèce de thriller. Il y a beaucoup d'action, beaucoup d'émotions. Vous êtes entouré de Normand Damour dans le rôle de votre père, Catherine Proulemé dans le rôle de votre mère. Il y a aussi Adèle Reynard qui fait partie de la distribution et d'autres. Vous êtes 10 sur la scène?
C'est tellement une belle équipe.
Oui, vous êtes 10 sur la scène.
Oui, on est 10.
Une mise en scène très inspirée d'Hugo Bélanger. Ça me faisait penser à quelques moments à des traits de Robert Lepage. Là, il y a beaucoup, beaucoup de création dans sa mise en scène.
Oui,
on voyage.
La vidéo, les lumières, la précision aussi du cœur. Hugo est très... il nous demande d'être très précis. On travaille beaucoup. Le travail de cœur doit être bien fait. Tout doit être parfait. En répétition, on répète jusqu'à ce qu'on l'aille.
Oui.
Donc, c'est agréable quand même de voir que ça, à un moment donné, ça pogne puis que ça fonctionne.
Ah oui. Et vous êtes sur la scène du début à la fin. C'est très physique, c'est très demandant. Quel travail d'acteur vous avez fait pour justement incarner ce personnage qui est une personne autiste, sans tomber dans les clichés? Est-ce que vous avez fait du travail de documentation? Êtes-vous allé rencontrer des personnes autistes?
Oui, mais en fait, ma tante, Colette, gardait 5 ou 6 autistes chez elle depuis que je suis assez petit. Donc, j'ai toujours vu un peu c'était quoi. Je les ai toujours côtoyés. Il y en a qui étaient plus légers, il y en a qui étaient plus un handicap un peu plus lourd. Mais je me suis inspirée d'eux.
Mm-hmm.
Je peux pas. En fait, il y a autant de niveaux d'autisme qu'il y a d'autistes.
Oui.
Autant de façons d'être humain qu'il y a d'humains. Donc, on a créé, avec Hugo, on a créé un autiste. Puis moi, j'ai ajouté les traits de personnalité de chacun des autistes Asperger que je connais. Donc, j'ai été pigée un peu dans ce que je voyais. Puis,
oui, parce que dans...
On a réussi à créer des personnages comme ça.
C'est ça, tout à fait. Dans le spectre, vous êtes, je ne sais pas, là, mais il me semble Asperger parce que vous avez une espèce d'esprit scientifique extrêmement développé.
Ouais. Oui, vraiment. Christopher adore les étoiles, les chiffres. Il se souvient mot à mot de ce que les gens disent. Donc, son cerveau fonctionne très, très vite. Puis, c'est ça aussi qu'on voulait dans la pièce, comme si Christopher était un pas en avant tout le monde.
Et il a quel âge, Christopher? Parce que vous donnez son âge, c'est assez rigolo.
15 ans, 3 mois, 3 jours.
Oui, c'est très important.
Et, très précis.
Oui, tout à fait. Quel message transmet cette œuvre, selon vous, Sébastien René?
Ben, je pense que, en fait, pour avoir connu, pour avoir été un peu élevé avec des autistes, moi, j'aimerais leur faire honneur. Donc, en plus, c'est drôle parce que c'est le mois de l'autisme. Mm-hmm. Je sais pas si c'est organisé.
Mais peut-être.
C'est le message. Je pense que c'est un beau message de lumière. Puis, Christopher le dit, à un moment donné, quand il regarde le ciel, il dit, j'aime regarder le ciel. Parce que quand on regarde le ciel, la nuit, on sait qu'on regarde des étoiles qui sont à des centaines et des milliers d'années-lumière de nous. Puis, on se sent tout petit.
Mm-hmm.
Donc, si on est petit pour eux, Si eux sont petits pour nous, si les étoiles sont petites pour nous, nous, on est petites pour elles. Donc, c'est comme si faut vivre. Maintenant, peu importe si on a des problèmes, si ça fait du bien, en fait, de savoir que notre stress ou ce que nous sommes, on est tellement petits dans cet univers-là que tous nos stress, c'est petit. Je pense que c'est un beau show de lumière. Puis, peu importe nos problèmes, faut vivre. Puis, faut foncer.
Oui, puis quand on rencontre ce personnage-là, ça fait aussi tomber des préjugés.
Aussi, j'espère.
Oui. Oui, ah oui. Alors, la pièce est présentée jusqu'au 19 mai 2018. Mon petit doigt me dit qu'il y aura des supplémentaires. Sébastien, René, encore une fois, bravo. Bravo aussi à toute la distribution, mais à vous, je distribue, pour faire un clin d'œil à la pièce, non pas un A+, mais un A++.
Merci beaucoup, c'est vraiment gentil.
Merci pour l'entrevue.
Au revoir.
Au revoir. Une nouvelle tirée du site de Radio-Canada, la création du langage des signes dans la nation Oneida. Un langage des signes basé sur la langue Oneida est en cours de création pour permettre aux personnes sourdes ou malentendantes de rester en contact avec leur culture. Marsha Arlen a été sourde toute sa vie. La grand-mère de 59 ans, membre de la nation Oneida of the Thames, près de London, en Ontario, se souvient des moments où ne pas entendre la fait se sentir à l'écart, en particulier lors des réunions communautaires. Quand quelqu'un prenait la parole en langue Oneida, l'interprète devait s'arrêter, laissant Arlen et les autres membres de la communauté atteints de surdité hors des conversations. Il y a une autre raison pour laquelle Marsha Arlen souhaite développer le langage des signes pour sa nation. Elle veut transmettre sa culture autochtone à ses 5 enfants adultes qui sont également sourds. Les signes sont en cours d'élaboration dans le cadre d'un projet pilote au Centre linguistique et culturel Oneida. Marsha et son conjoint, Max Arlen, travaillent avec la conseillère et élue, Olive Helm, pour créer les signes. Max, le traducteur de Marsha, explique un mot à Mme Helm qui le traduit en Oneida puis en anglais. Marsha et Max créent par la suite un signe pour le mot. Plus de 200 signes ont été développés jusqu'à présent. La langue est utilisée par une vingtaine de personnes sourdes de la Première Nation. Sur ici.fr, bientôt un restaurant à Paris, la belle aventure du Reflet, resto tenu par des personnes trisomiques. Il y a un peu plus d'un an, le Reflet, un restaurant tenu par des personnes trisomiques, a ouvert à Nantes et cartonne. Un livre et un nouveau restaurant à Paris sont en préparation, une cagnotte est ouverte en ligne. Quand ça marche, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Ça donne même envie de pousser encore plus loin. Et là, ça ne marche pas, ça court, ça fonce, ça cartonne. À Nantes, un peu plus d'un an et demi après son ouverture, le restaurant Le Reflet, qui a la particularité d'être tenu par des personnes trisomiques, connaît un succès formidable. Il fait souvent salle comble midi et soir, au point qu'y débarquer sans réservation peut être aventureux. Un succès qui donne des ailes et de nouveaux projets à son instigatrice, Flore Lelièvre. Un livre et un restaurant à Paris sont en projet et une cagnotte en ligne est lancée pour aider à financer le tout. Derrière tout ça, une jeune femme, Flore Lelièvre, architecte designeuse de 27 ans, designeuse plutôt de 27 ans, qui, depuis quelques mois, a mis entre parenthèses son job pour permettre aux personnes trisomiques de travailler en milieu ordinaire, mais aussi permettre à chacun d'aller à la rencontre de ces personnes extraordinaires. Flore a un frère trisomique, a travaillé autour du handicap et son intégration dans la société. Et elle en est convaincue. Se mélanger, cela attire les personnes handicapées. Et surtout, elles ont aussi tellement de choses à nous apporter. Au Reflet à Nantes, 6 personnes trisomiques seront encadrées par un gérant et une cuisinière professionnelle. Andrew Bastaros veut faire reculer la cécité dans le monde, surtout dans les pays en voie de développement. Faute de moyens d'équipements sophistiqués et de médecins spécialisés, la cécité frappe davantage les populations les plus pauvres. En Afrique subsaharienne, 80 % des aveugles le deviennent faute de dépistage. Peak Vision permet de réaliser des tests ophtalmologiques avec la caméra d'un smartphone en testant notamment l'acuité visuelle et la perception des couleurs. Il est également possible de réaliser un fond d'œil, un examen en profondeur pour déceler une cataracte ou prévenir un glaucome. Le Botswana, la Tanzanie et l'Inde ont déjà adopté ce programme et commencent à former à son utilisation. Merci à mes invités, Pierre Mainville, athlète d'escrime qui participera au défi sportif Altergo, qui prend son envol le 23 avril, et Sébastien René, comédien, interprète de Christopher Boone, une pièce présentée chez Ducep, pièce intitulée « Le bizarre incident du chien pendant la nuit à voir absolument ». Ici Hélène Denis qui remercie mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Maurice Bolduc à la technique et qui vous dit un grand merci d'être là. On se retrouve demain par actualité. J'aurai le plaisir de rencontrer Chloé Sainte-Marie. À demain.